RMC Intégral Tour. Céline Géraud.
Salut à tous, il est 19h06, c'est l'Intégral Tour. Alors avant de filer à Annonay à l'arrivée de la 12e étape pour retrouver Christophe Cessieux, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon, petite piqûre de rappel, toutes les infos, toutes les indiscrétions de ce vendredi 13, c'est le journal des sports, Martial Fernandez.
RMC Sport.
Salut Martial.
Salut Céline.
Alors dans ce Tour de France aujourd'hui, il y a le peloton a musardé et du coup il y a des coureurs qui en ont profité.
Oui, 5 coureurs exactement, 5 échappés aujourd'hui entre Saint-Jean-de-Maurienne et Annonay d'Avézieux pour l'étape la plus longue de ce Tour 226 km. Un vainqueur à l'arrivée, David Millard, devant le Français Jean-Christophe Perrault, 3e l'Espagnol Martinez, 4e qui faisait partie de cette échappée aussi le Français Cyril Gauthier et puis le Croate Robert Kizerlovski à la 5e place. Le peloton qui leur a donné la permission d'aller se disputer la victoire d'étape, le plus malin, le Britannique David Millar, une victoire symbolique pour un coureur qui avait déjà gagné 3 étapes sur le Tour au début des années 2000 à une autre époque avant sa suspension 2 ans pour usage de PO. Depuis, le Britannique s'est racheté une conduite, aujourd'hui rédemption et une journée qui s'achève avec le sourire. David Millar.
C'est une belle victoire. Ça fait un tour qui était un peu inattendu pour nous, parce qu'avec qu'on a perdu Ryder et tous nos objectifs ont changé très rapidement. Mais pour moi, ça m'a laissé carte blanche, on va dire. Alors j'ai profité de ça. Heureusement, j'avais des jambes et la tête pour réussir aujourd'hui. C'était difficile à savoir, mais quand j'ai passé les premiers 2 cols avec les miens, je savais que c'était une journée pour moi, parce que j'ai pas attendu de passer les premiers cols comme ça. Oui, j'avais choisi ma tactique, on va dire 50 bornes de l'arrivée, que je voulais faire le sprint. C'était la seule chose que j'avais besoin de faire, c'était de suivre chaque attaque. Et c'était très difficile, mais je savais que si je ne laissais personne partir, je pourrais gagner le sprint. Et heureusement, j'ai fait.
David Millar au micro de Pierre-Yves Leroux. À la 2e place, Jean-Christophe Perrault, 35 ans, qui sera dans quelques semaines au départ aux Jeux de Londres de l'épreuve de VTT à Pékin en 2008. Il avait décroché la médaille d'argent juste derrière Julien Absalon. L'Australien Matt Goss, lui, a été rétrogradé à la 7e place après un sprint mouvementé avec Peter Sagan. Pas de changement au classement général. Bradley Wiggins avec 2 minutes et 5 secondes d'avance sur son coéquipier de chez Sky, Christopher Froome, et 2,23 devant l'Italien Vincenzo Nibali. Demain, le 14 juillet, 13e étape, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et le Cap d'Agde, pas de grandes difficultés, mais tout de même le passage au Mont-Saint-Clair à 23 km de l'arrivée à 7, une montée courte qui pourrait être décisive pour la victoire d'étape du côté du Cap d'Agde.
Des nouvelles, en tout cas les toutes dernières infos sur le feuilleton de cette fin de semaine, Ibrahimovic au PSG.
Tout le monde en parle, même Carlo Ancelotti lui-même en stage du côté de l'Autriche. Il y a de grandes chances qu'Ibrahimovic et Silva arrivent au Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'a dit l'entraîneur italien du Paris Saint-Germain cet après-midi. Ibrahimovic déjà à Paris, sans doute sur le point de signer. Le Suédois devrait passer dans la soirée la traditionnelle visite médicale avant tout engagement. Le PSG et le Milan AC sont tombés d'accord, 70 millions pour acheter Ibrahimovic et le défenseur brésilien Thiago Silva. Reste donc à obtenir peut-être dans les prochaines heures la signature d'Ibrahimovic. Ses représentants ont quitté le Parc des Princes en milieu d'après-midi. Côté joueur parisien, on en parle beaucoup. Le PSG est en Autriche. Christophe Jallet, l'arrière latéral parisien, joint cet après-midi par Christophe Payet, se prépare à l'arrivée d'une star du foot mondial. Christophe Jallet.
Disons que c'est encore que des rumeurs, comme les 90% des choses qu'on a entendues depuis 3 mois. Donc on s'attend à ce que ça se réalise. Maintenant, on n'en sait pas plus que ça, comme tout le monde. Si jamais ça s'avère vrai et que ça se réalise, on accueillera les 2 jours avec grand plaisir. Et je pense que c'est un honneur de pouvoir compter des joueurs comme ça dans le championnat de France, que ce soit à Paris ou ailleurs. Donc voilà, c'est signe que le championnat de France attire quand même de grands joueurs. Donc voilà, c'est aussi signe d'ambition du club et d'avoir envie de réaliser une très bonne saison.
Christophe Jallet, que vous pourrez écouter plus longuement et qui abordera tous les sujets parisiens dans l'after à 22h avec Christophe Payet. John Terry, lui, a quitté après un procès de 5 jours. Le défenseur de Chelsea était accusé d'insultes racistes envers le joueur des Queen's Park Rangers, Anton Ferdinand. L'histoire du foot écossais qui en prend un sacré coup. Les Glasgow Rangers joueront en 4e division la saison prochaine à cause de soucis financiers. C'est ce qu'ont décidé aujourd'hui les clubs écossais de la Ligue nationale. Les Rangers Mars qui affiche un bilan financier catastrophique avec une dette s'élevant à plus de 160 millions d'euros. Les experts sur le terrain ce soir, France-Tunisie en handball, le premier match de préparation pour les champions olympiques en titre, c'est face à la Tunisie du côté de Strasbourg. Gauthier Kuntzmann, on suit ce match, on est dans deuxième période.
Dans la deuxième période, et c'est toujours l'équipe de France qui mène 2-3 points, un écart qui reste stable depuis le début du match. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer ici au Rhenus de Strasbourg. Et les Bleus, les experts qui sont pour le moment très bien, très appliqués, très concernés. On les voit peaufiner quelques détails, même s'il reste bien évidemment encore beaucoup de choses à régler d'ici le début des Jeux Olympiques dans deux semaines. Mais les Français qui sont plaisants à voir et qui au fil du match prennent leur rythme, des Français qui semblent très bien physiquement, en tout cas à l'image d'un Nicolas Karabatic qui discute beaucoup avec Claude Onesta, Didier Dinard, Daniel Narcisse, les Bleus qui peaufinent leurs derniers détails et qui mènent 22 à 19 après 14 minutes de jeu en deuxième période.
Merci Gauthier, on suit ce match tout au long de l'intégral tour.
Allez, on continue la tournée de l'équipe de France masculine de basket qui enchaîne les matchs.
Après une défaite inattendue hier qui n'était pas au programme, une défaite 63-57 face à la Belgique. À Gravelines ce soir, une chance de rebond, c'est face à la Biélorussie, à Liévin où on va retrouver François Giuseppi. François, nouveau contretemps pour cette équipe avec seulement 8 joueurs valides ce soir.
Oui, ce sera officialisé dans quelques minutes maintenant, mais ils ne seront que 8 valides, que ce soit physiquement ou plutôt administrativement. Pourquoi ? On va sortir non pas la calculatrice, mais la petite musique du compte est bon. Boris Diaw ne jouera pas puisque son assurance n'est toujours pas homologuée, validée par la NBA après son nouveau contrat prolongation avec les Spurs en NBA. Ça en fait un de moins. Le deuxième, c'est bien sûr Nicolas Batum qui ne peut toujours pas jouer puisqu'il n'a pas officialisé son contrat lui avec la NBA. Ça en fait 10 moins 2. Pourquoi ? Parce que depuis hier soir, petit contretemps pour Roni Turiaf qui se plaignait de la hanche hier soir. On l'a vu grimacer sur le parquet de Gravelines. Il sera préservé ce soir, et coup dur également pour Michael Gelabal qui était de la partie hier dans un début de match plutôt facile pour lui, mais derrière il a ressenti un petit torticolis à la suite du voyage compliqué de Madrid et de ce match face à l'Espagne en début de semaine. Résultat, 12 moins 4 égale 8, 8 valides pour une équipe de France qui verra la Biélorussie non classée au ranking FIBA, donc pas d'inquiétude à avoir, et surtout toujours de la dureté dans le combat puisque avec 8 joueurs, les rotations seront donc compliquées. On devrait donc voir Tony Parker notamment jouer encore un peu plus qu'hier. Il était 20 minutes sur le parquet hier à Gravelines.
Et on se retrouve à partir de 20h30, hein, François, pour suivre cette rencontre dans Before London. Les Français qui joueront à Bercy contre l'Espagne, souhaitons-le, avec un petit peu plus de joueurs valides.
On est à 14 jours du coup d'envoi des Jeux, et pour Christophe Lemaître, l'heure du choix approche.
100 ou 200 mètres aux Jeux Olympiques, le champion d'Europe d'Helsinki du 100 mètres en saura plus demain. Ce sera sa dernière course avant les JO, ce sera au meeting de Londres à Crystal Palace. Un dernier 200 mètres pour prendre enfin sa décision avec son entraîneur Pierre Carraz. Pour Marie-Zévan Gépé, membre de la Dream Team RMC Sport, le sprinteur français va vouloir frapper fort.
Je pense qu'on peut attendre qu'il se rassure, parce que c'est vrai que Christophe a besoin de faire des choix qui sont compliqués, qui sont difficiles, qui dépendent évidemment de la concurrence, mais aussi de son niveau et de ses sensations. J'imagine, sans qu'il l'ait vraiment dit, que Christophe a envie de courir sous les 20 secondes, ou en tout cas tout proche, dès maintenant quasiment. Parce qu'effectivement, pour espérer une médaille aux Jeux Olympiques sur 200 mètres, il faudra être sous les 20 secondes. Donc pour pouvoir choisir entre le 100 et le 200, il faut cartonner dès maintenant. Ce qui va être compliqué dans le contexte actuel, je parle du contexte météorologique.
Marie-Zévan Gépé, membre de la Dream Team RMC Sport du côté de Londres. Ce soir, Renaud Lavillenie qui tentera de remporter son 12e concours du saut à la perche consécutif. Nouvelle de Formule 1, mauvaise nouvelle pour Romain Grosjean, le Français qui subira une pénalité de 5 places la semaine prochaine au départ du Grand Prix d'Allemagne en raison d'un changement de boîte de vitesse juste après le Grand Prix de Grande-Bretagne, et c'est la règle. Eh bien, il aura une pénalité de 5 places, quel que soit son classement lors des essais qualificatifs, qu'on suivra évidemment sur l'antenne d'RMC.
Bien sûr, merci beaucoup Martial Fernandez, et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, l'intégral tour continue comme d'hab, c'est le moment. On va filer tout de suite retrouver Christophe Cessieux, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. L'intégral tour, l'arrivée de cette 12e étape aujourd'hui à Annonay. Salut les garçons.
Bonsoir Céline.
Bonsoir Christophe.
Nous sommes tous là évidemment comme tous les soirs.
Vous êtes en kilt ?
On est... Oui, mais on n'a rien mis en dessous. Hein.
Ah, très bien.
Ah, ça, va. C'est la tradition. Il faut respecter les traditions, Céline. Hein.
Alors, c'est un Écossais qui a gagné. Je l'adore, David Millar.
Exactement. David Millar, un Écossais de 35 ans qui avait fait parler de lui par le passé, en bien, puis en mal. Et à nouveau en bien ce soir, puisqu'il remporte cette 12e étape en devançant un Français nommé Jean-Christophe Perrault, qui, vous le savez sans doute, va tenter un drôle de défi dans 4 semaines maintenant, puisqu'il sera aligné aux Jeux Olympiques de Londres, non pas sur l'épreuve de cyclisme sur route, mais en VTT. VTT dont il avait pris la médaille d'argent, c'était il y a 4 ans à Pékin. On va évidemment parler de ces deux garçons qui ont fait l'actualité du jour. David Millar est-il passé à côté d'une immense carrière, puisque Cyril Guimard l'a bien connu, c'est lui qui l'a fait passer professionnel en 1997. Et puis nous nous intéresserons au pari de Jean-Christophe Perrault. Enfin, on va également essayer de décrypter la clé du succès du cyclisme britannique qui rafle tout depuis le début de ce Tour de France. De temps en temps, il nous laisse gagner des étapes, heureusement. En tous les cas, on en parle dans quelques instants avec Cyril Guimard, avec Luc Leblanc et avec Thierry Bourguignon. C'est l'Intégral Tour et c'est jusqu'à 20h comme tous les soirs.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'Intégral Tour en direct d'Annonay ce soir, lieu d'arrivée de la 12e étape du Tour de France. Une étape de transition, mais une étape remportée par un coureur que l'on connaît bien dans le peloton, un certain David Millar. On va en parler dans un instant avec toute la bande de l'Intégral Tour, composée évidemment comme tous les soirs de Lucho Leblanc.
Bonsoir à tous. Ça ça va très bien, merci.
Avec cette belle victoire de David Millar, le druide, notre ami Cyril est également avec nous. Bonsoir Cyril.
Oui, je suis encore.
Voilà, il a toujours. Peut-être que dans 20 ans, il arrivera à allumer.
Il va appuyer sur le bon bouton.
Il y arrivera, il y arrivera. Et Thierry Bourguignon, on n'est pas très loin de chez lui là. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs, et je confirme, la vallée du Rhône, c'est la galère.
Ah oui, d'accord.
C'est la galère. Et oui, moi je suis sur les routes.
Hein. Dès qu'on arrive chez toi, de toute façon, c'est la galère.
Mais bien sûr, mais tu peux toujours y croire, mais t'as vu le temps aussi.
Ah oui, ça change. Encore que là, il y a des nuages quand même qui s'amoncèlent au-dessus de nos têtes. Alors messieurs, on va revenir évidemment sur la victoire de David Millar. David Millar, 35 ans, 4e victoire d'étape sur les routes du Tour. Un garçon au caractère et la personnalité contrastée. Ça a été un grand coureur à ses débuts. On va en parler avec Cyril, puisque c'est Cyril qui l'avait fait passer professionnel en 1997 lorsqu'il courait pour la formation Cofidis. Ensuite, il y a eu évidemment cette période délicate, c'est le moins qu'on puisse dire, pour David Millar, puisqu'il avait été pris dans les filets de l'antidopage en 2004 pour possession et surtout administration de PO, 2 ans de suspension jusqu'en 2006. Et en 2006, eh bien, c'est un nouvel homme qui est apparu, un chevalier blanc de l'antidopage, qui depuis eh bien, continue de prêcher la bonne parole et remporte de nouvelles victoires comme celle d'aujourd'hui. Alors, avec Cyril, on va s'intéresser, et avec vous évidemment, Lucho et Thierry, sur la personnalité et sur le talent de ce garçon. David Millar est-il passé à côté d'une immense carrière ? Cyril, tu l'as donc découvert il y a de cela un paquet de temps maintenant, 1997. Il est passé pro chez Cofidis et tout de suite, on s'est aperçu que c'était un garçon qui avait vraiment beaucoup de qualité, puisque 3 ans plus tard, je crois, il revêtissait le maillot jaune de leader du Tour de France en remportant le prologue et on se disait qu'il avait une belle carrière devant lui, et puis boum, patatras, ça lui est tombé sur la tête, oui, quelques années plus tard.
Il y a eu la cabane sur le chien et mon micro est ouvert. En fait, c'est en 96 qu'on le découvre sur les routes de France, et plus exactement, le premier qui m'en a parlé, ou les deux premiers qui m'en ont parlé, étaient Bernard Kilfen et Martial Gaillant. Et à ce moment-là, donc, j'étais en train de bâtir l'équipe Cofidis, et la première chose que l'on a fait, c'est que ce jeune talent, je l'ai fait signer immédiatement, d'ailleurs au même titre qu'un David Moncoutier.
C'est marrant vrai d'ailleurs que... de les retrouver aujourd'hui. Oui. L'un est malheureux, l'un est heureux, hein, puisqu'on rappelle que David Moncoutier a abandonné sur chute tout à l'heure.
Et c'est vrai qu'il avait des qualités absolument extraordinaires et surtout des qualités de rouleur. Et comme il est relativement fin comme coureur, il grimpait aussi plus que mieux que la moyenne des coureurs de son âge. N'oublions pas qu'à l'époque il avait 19 ans, 20 ans, et j'ai pensé à ce moment-là que ce coureur pouvait devenir un des grands coureurs du Tour de France, d'abord grâce à ses qualités de rouleur contre la montre, à son intelligence également, et puis c'était un, je vais pas dire un très très grand travailleur, mais travaillant suffisamment pour être capable de progresser. Et j'étais persuadé à ce moment que que sa carrière aurait dû être l'une des plus belles carrières, une carrière avant l'heure par rapport à celle de Wiggins.
Ouais. Alors c'est un garçon qui ensuite s'est un peu grillé les ailes.
Où on l'a aidé.
On l'a aidé, c'est vrai qu'il a été plutôt dilettante, j'ai pu lire de ci de là, il aimait la belle vie, il aimait les sorties, il habitait à Biarritz, il était en train de se faire construire une fantastique maison, il aimait les belles voitures, les jolies filles et tout ça, et puis évidemment, lorsqu'il a commencé à moins bien tourner, il a eu recours au dopage et il est tombé dans les mailles de l'antidopage en 2004. Lucho, je sais pas si tu l'as connu lorsque tu finissais ta carrière, débuté dans les pelotons, David.
Mais... Il a commencé en 96 sa carrière.
97 chez les pros. Hein.
Oui, chez les pros. Donc 97-98. Donc il a fait 2 ans avec moi chez les pros.
Ouais, ouais. Ouais. Tu te souviens de lui?
Non, pas spécialement, non. Mais j'ai appris à le connaître quand il était coureur après avoir arrêté ma carrière. Donc j'ai pu discuter pas mal de fois avec lui. C'est quelqu'un de très sympathique, très gentil, très abordable, très intelligent, très cultivé. Et oui. Après, bon, c'est sûr qu'il a, comme on dit, il a peut-être pété un petit câble à un moment donné dans sa carrière. C'est dommage parce que, comme le dit Cyril, il avait les moyens de pouvoir faire une carrière exceptionnelle, que ce soit sur les classiques, que ce soit sur les courses à étapes comme le Tour. Donc c'est vrai que c'est peut-être du gâchis, Millard. Ouais.
Ouais. Oui, parce que évidemment, sa carrière a pris un tout autre sens, hein, Thierry. Lorsqu'il a été attrapé pendant 2 ans, il a rongé son frein, a fini la belle vie, et puis il a compris que le cyclisme était sa vie, et il s'est remis à travailler parce qu'il ne faisait pas beaucoup avant de repartir et devenir le chevalier blanc du cyclisme. Mais on a l'impression malgré tout, Thierry, que même c'est des années plus tard, c'est presque 10 ans plus tard, c'est 8 ans plus tard, ça reste accroché à ses basques, hein, cette histoire de dopage et de repenti du dopage.
Malheureusement, une affaire comme ça reste pas inaperçue, ça... Donc ça reste accroché à lui, même si il a fait un mea culpa, il a travaillé, il est revenu, et c'est pas donné à tout le monde, puisqu'on l'a dit par les derniers jours, les gars pris au dopage reviennent, mais ne reviennent pas forcément au même niveau.
Ouais, on a vu lui, le cas effectivement avec Valverde, avec Vinokourov, voilà, avec d'autres.
Exactement. Et lui, ben non, il a toujours été là, il a toujours bossé. Bon, déjà, c'était un. Cyril, excuse-moi. Cyril le disait, c'est un moteur, donc franchement. Ben oui, il a su revenir, et la preuve en est aujourd'hui, ben il a su prendre la bonne échappée et aller au bout et gagner ce sprint. Bon, ouais. c'est Perrault qui a loupé son sprint.
On en parlera de Perrault dans quelques instants. De toute façon, Perrault est pas un sprinter.
Pour revenir sur David, comme vous dites, bon, je l'ai dirigé pendant un an. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pu le faire beaucoup plus longtemps, parce que c'est un coureur qui était déraciné. Il n'avait pas de racines lorsqu'il est arrivé en France.
Né à Malte, élevé en Écosse. Avec un père pilote de ligne.
Non, il vit en partie à Hong Kong chez son père, qui est pilote de ligne, et de temps en temps chez sa mère en Écosse. Donc il n'a pas de racine en France, il n'a pas de racine familiale nulle part, et l'erreur qui a été faite, c'est de ne pas véritablement l'encadrer, comme je l'avais fait avec Greg LeMond quand il est arrivé en France, où je lui ai trouvé une maison, je lui ai trouvé une petite ville pas très loin de chez moi, où je pouvais être présent s'il en avait besoin à chaque instant, et si moi j'étais pas là, il y avait des voisins qui étaient capables également de... Bon, David Millard était un petit peu perdu au niveau de tout cela. On n'a pas su mettre autour de lui les moyens nécessaires, pas seulement parce qu'il avait du talent, parce qu'on doit le faire avec tous les coureurs qu'on engage. Quand on engage quelqu'un dans une équipe, eh bien on va au bout sur le plan sportif, sur le plan de sa préparation, mais également dans le cas de coureurs qui arrivent de l'étranger et éventuellement de très très loin, mettre autour de lui une sorte de cocon, on va dire entre guillemets, familial, pour qu'à aucun moment il puisse se perdre. Et ça n'a pas été fait. Ensuite est arrivé, bon, enfin, il y avait quelques coureurs dans l'équipe qui n'étaient pas des saints, et vous le savez. Vous savez ce qu'a été l'affaire Cofidis, donc de 2004. Mais ça veut dire que déjà depuis plusieurs années, cette équipe était littéralement gangrénée. Lui n'ayant pas de racines, n'ayant personne autour pour lui dire attention, tu vas trop loin, il a plongé. Mais c'est pas le fond du coureur, c'est pas un tricheur de nature.
D'accord. Est-ce que c'est un garçon qui, s'il n'était pas tombé là-dedans, aurait pu remporter le Tour de France? C'est vrai qu'il a une morphologie technologie assez semblable à celle de Bradley Wiggins. Il a les mêmes qualités que Wiggins dans le contre-la-montre. Il aurait pu faire d'énormes progrès en montagne. Il se débrouille pas mal, ouais, mais il aurait pu être peut-être un peu meilleur. Est-ce que tu aurais pu faire de lui un vainqueur du Tour? Est-ce qu'il est passé à côté d'une grande carrière?
Oui, il est passé à côté d'une grande carrière. Il aurait pu effectivement progresser. Mais vous savez, quand vous tombez dans le PO, dans les préparations, il y a un moment où vous oubliez qu'il faut de la souffrance et vous n'avez plus de souffrance. Ouais. Donc, il y a un moment où il s'est limité au niveau de sa perception de la licence, de la souffrance. Et c'est ce qui a fait après qu'il n'a jamais été aussi bon. 2 ans d'arrêt, il est revenu. Mais là, il était plus dans une démarche intellectuelle de dire, bon, j'ai fait des conneries, je dois en payer le prix et je dois être aujourd'hui celui qui dit attention, ne faites pas les mêmes conneries que moi. Mm-hmm. Il s'est peut-être trop polarisé là-dessus et pas suffisamment encore sur son vrai métier de coureur cycliste.
Évidemment. Donc David Millar, vainqueur de cette étape aujourd'hui, un garçon intéressant, un garçon passionnant qui a eu un parcours un peu compliqué, un peu chaotique, mais qui est de retour et à 35 ans, c'est une belle victoire, une nouvelle victoire pour les Anglais, puisque David Millar fera partie de la sélection britannique pour les Jeux Olympiques. Avec à côté de lui Mark Cavendish, Christopher Froome et Bradley Wiggins. Elle est pas mal l'équipe de Grande-Bretagne pour les jeux, non?
Elle est acceptable, sans plus.
Voyage, non, on peut faire guère mieux. Hein. Guère mieux.
Voilà, tous les quatre ont déjà remporté une étape.
Et ce n'est pas pour ça qu'ils vont gagner, peut-être.
Non, parce que quand on met trop de coques dans la même basse-cour, on sait. Alors, tiens, d'ailleurs, le comité olympique anglais avait souhaité pas engager David Millar aux Jeux Olympiques.
Avait décidé de ne pas.
Voilà, avait décidé, mais il a été débouté par le tribunal arbitral du sport. En fait, le comité olympique britannique souhaitait que les garçons qui avaient été suspendus plus de 6 mois pour dopage ne participent pas aux Jeux. Il a été débouté et donc David Millar participera aux Jeux, comme Dwayne Chambers d'ailleurs, hein, l'athlète britannique qui lui aussi sera présent à Londres dans quelques semaines. Il y en a un autre qui sera présent à Londres, c'est Jean-Christophe Perrault. Mais alors là, il sera pas avec David Millar, Cavendish, Froome et Wiggins, puisqu'il participera à l'épreuve de VTT.
Il n'aura pas envie d'être avec Millar.
Non, je pense pas, parce que Millar pourrait le griller une nouvelle fois sur la ligne. Il faut rappeler que Jean-Christophe Perrault avait signé une très belle médaille d'argent il y a 4 ans à Pékin, battu par l'immense Julien Absalon, double champion olympique, et que donc il va tenter de faire la même chose dans quelques semaines, dans 4 semaines très exactement.
Faire mieux.
Mais déjà, faire aussi bien, ce serait pas mal. Thierry, est-ce que tu crois dans le pari de Jean-Christophe Perrault? Est-ce que tu penses que c'est possible de changer de discipline, même s'il faut pédaler? C'est quand même pas la même discipline, le VTT. Hein.
Franchement, c'est un super challenge. Hein. Je pense que ça va être dur, mais le foncier, il va l'avoir, ça c'est sûr, en sortant du Tour de France. S'il sort bien comme il faut, sans être râpé, je pense que ça peut être bénéfique pour lui. Il aura vraiment du fond et c'est ce qu'il faut sur ce type d'activité, parce que le cross-country, ben, ça se rapproche quand même bien dans le type de l'effort
de la montagne,
du vélo, ouais. Et de la montagne, oui, bien sûr. Et donc il aura gagné en puissance, il aura gagné en foncier. Après, ben, j'espère pour lui qu'il arrivera pas au sprint. Hein.
Le sprint, c'est pas trop son truc. Ouais, on
l'a bien compris, non, et puis en plus, il se retourne en plein sprint. Des fois qu'il y a un troisième larron qui vient le faire marron. Mais non, bah, c'est un peu dommage, parce que là, je pense que s'il avait eu un tout petit peu plus de giclette et il surprenait Millar, bah, sur ce coup-là, il était fatigué aussi et ça s'est joué vraiment à pas grand-chose, hein, non plus. Hein.
Ouais. Non, la victoire, elle est nette.
Il se met derrière, il se retourne, Cyril. Franchement, ça m'a impressionné d'ailleurs. Ouais,
c'est pas un spécialiste de la route. Il est en train d'apprendre son métier, même s'il est pas tout jeune. Il a 35 ans, mais son vrai métier c'est le VTT. Lucho, t'y crois dans ce pari, toi?
Oui, c'est toujours possible, oui. Mais
ça fait avancer le débat, c'est ça qui est bien, c'est que tu nous fais bien avancer le débat.
Non, mais je pense qu'avec l'acquis du Tour de France, s'il finit le Tour dans de bonnes conditions et s'il a su récupérer du Tour, dans le temps, parce qu'il y a 3 semaines.
C'est dans 4 semaines là.
Dans 4 semaines, donc ça veut dire 3 semaines après le Tour.
Bon, attendez, vous êtes bien gentil parce qu'en fait, vous vous mouillez pas du tout.
Non.
Oui, mais... ça peut être possible. Oui, si.
Je te dis, la seule condition.
Si finit le Tour de France,
ben, tu me permets si, que je continue.
Comme s'il l'avait fait dans une chaise longue.
Mais non, 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 mais je dis simplement, s'il finit le Tour dans de bonnes conditions, on va voir l'état de Perrault dans les Pyrénées. Mais s'il a une bonne récupération, s'il finit assez frais le Tour, bien sûr que dans la foulée, il peut faire un numéro au championnat, aux Jeux Olympiques.
Alors, explication avec le druide.
Oui, bien sûr, c'est toujours possible.
Non, mais Cyril, Cyril, qui se fout de notre gueule là-dessus.
Oui. Ah ben oui, oui, mais...
Alors c'est lui
qui
te dit...
Pas tellement convaincu.
Non, mais
si
non. Aujourd'hui, sur une étape comme ça, ça peut arriver au sprint, et c'est, si c'est le sprint, mais c'est un tel. Et si ça... Mais non, mais oh, Cyril, tu fous. Arrête un peu.
Le problème, c'est que, il peut pas finir sans être fatigué le Tour de France.
Oh, ça dépend.
Non, fatigue.
Il va lui falloir une bonne semaine de restructuration et de récupération. Et surtout, ce qui va être le plus important pour lui, et à mon avis peut-être le gros handicap, c'est qu'il n'a que 2 semaines pour retrouver tous les automatismes
du VTT.
C'est-à-dire les descentes à pic, les freinages, les déports, la glisse.
Il a en lui ça.
Il va les retrouver tout de suite. Il les a toujours.
Tu prends un vélo de cyclocross, t'as fait du cyclocross, tu prends un vélo de cyclocross, c'est des automatismes.
Il va tomber sur des types qui ne font que ça. Il va tomber sur un Absalon qui va l'enrhumer et le mettre à 4 minutes. Absalon, il saute sur tous les rochers aujourd'hui. Parce que le VTT,
c'est du cross-country, c'est pas du trial, Cyril. Non.
Ah bah écoute, j'étais aux Jeux Olympiques l'an dernier, je peux te dire qu'on sautait d'un caillou sur l'autre. Aux Jeux Olympiques à Pékin.
Il y a 4 ans, mais.
Ouais. Je peux te dire que j'ai fait tout le parcours à pied. Moi, je passe pas.
Non, mais je peux.
Toi comme moi.
Mais le temps dans les freinages, dans les relances.
Bah, les freinages.
Non, les freinages, non, non. Freinages et les appuis.
Tu appuies sur le frein gauche, sur le frein droit.
Je suis persuadé que c'est pas le problème.
Si le cross, il va nous parler de VTT.
Bon,
en tous les cas,
j'avais toujours le vélo sur moi, sur mes épaules.
On verra ça. En tous les cas, le pari.
Donc pour le druide. Pour le druide, c'est pas gagné.
C'est exactement ce qu'on a dit. Non, mais c'était un peu plus argumenté quand même.
Je décerne
la victoire d'étape.
On va s'arrêter là. Le freinage, les automatismes, il les a.
Non, c'est pas vrai, monsieur. Il faut les retrouver.
La technique, il a pas perdu.
Mais c'est réinitialisé.
En une semaine, il reprend son coup de pédale de VTT.
Mais oui.
Attends, c'est comme si tu disais qu'au bout de 2 jours d'arrêt.
Vas-y, va-t'en.
De toute façon, t'as perdu le tour, Christophe.
Je vais faire l'animateur, si tu veux.
Allez, on va revenir dans quelques instants ici à Annonay. On va évidemment parier dans quelques instants. Et puis, on va s'intéresser également au succès du cyclisme britannique, je le disais. 4 victoires d'étape. Ils sont les 2 premiers au classement général, Froome et Wiggins. Alors, l'argent est-il la seule explication du succès du cyclisme britannique? Faut-il prendre exemple sur le cyclisme britannique? On en parle dans un instant. Auparavant, nous allons filer à Strasbourg, retrouver Gauthier Gunsmann qui a vu le match de l'équipe de France de hand, les experts qui disputaient leur premier match de préparation face à la Tunisie. Bonsoir Gauthier.
Bonsoir à vous tous. Le match vient tout juste de se terminer ici à Strasbourg et la France qui finalement s'est largement imposée de 7 buts 31 à 24 face à la Tunisie. La France qui a pris le large en fin de rencontre, des bleus très bien physiquement tout au long de la rencontre. On a pu se rendre compte que le travail d'Alain Catalé a porté ses fruits. Les bleus qui restaient sur un mois de travail d'abord en Savoie puis en Andorre. Il reste bien évidemment encore des détails à régler, mais c'est encourageant pour la suite. Claude Onestin a profité pour faire beaucoup tourner ce soir. 14 des 15 joueurs sur la feuille de match sont rentrés, dont Daoudoua Karaboué qui a joué toute la deuxième période. Seul William Akambré n'a pas joué. Karabatic Nicolas à son poste d'arrière gauche a été très appliqué, très concerné. Il retrouve ses marques, un poste qu'il n'a plus joué depuis quelques temps. Et puis voilà, les Bleus qui ont fait un match très intéressant ce soir. Il y a bien évidemment encore beaucoup de détails à régler, mais une victoire 31 à 24 face à un adversaire qu'ils retrouveront aux Jeux Olympiques.
Merci Gauthier. Donc les experts sont là, sont de retour, ils sont en pleine forme. Allez, tout de suite, on va jouer. Non, on joue pas. Bah si, comme tous les soirs, nous vous offrons 5 paires de lunettes de soleil Tour de France pour gagner. Il faut répondre à la question suivante. Quel coureur français a-t-il été contraint à l'abandon aujourd'hui après sa chute dans la descente du col du Grand Cucheron? Si vous pensez que la bonne réponse est Eros Rastafumeto, vous envoyez A par SMS au 732-16. Si vous pensez que la bonne réponse est David Moncoutier, vous envoyez B par SMS au 732-16. A tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour, comme tous les soirs jusqu'à 20h, c'est l'heure des débats avec toute la Dream Team, avec Cyril Guimard, avec Luc Leblanc, avec Thierry Bourguignon. Et dans quelques instants, nous allons évidemment parier pour l'étape de demain. Il y aura Dédé ensuite qui viendra nous voir. Mais avant cela, messieurs, juste un petit mot sur ce cyclisme britannique qui rafle tout, non seulement sur la piste, et on aura sans doute l'occasion de le vérifier dans quelques semaines aux Jeux Olympiques, et également sur la route. Hein, on en parlait tout à l'heure, Cavendish, meilleur sprinter du monde, Bradley Wiggins qui est en passe de remporter le Tour de France, à moins que Christopher Froome, qui est également britannique, ne le passe. Ils sont tous les deux premiers et deuxièmes au classement général. Et puis David Millar, qui lui continue de courir à 35 ans, qui remporte des étapes et qui est un repenti du dopage. C'est vrai que l'exemple donné par les Britanniques est important. Est-ce que c'est l'argent qui explique la réussite du cyclisme britannique, ou alors il y a aussi beaucoup de talent, Cyril? On ne peut pas tout acheter avec l'argent, évidemment. Hein.
Non, il y a d'abord, dans un premier temps, il y a un projet qui a démarré il y a déjà quelques années, un projet, anglais, avec d'une part la piste, et on sait ce que ça a donné aux Jeux de Pékin, où les Anglais n'avaient jamais dominé d'une telle façon, et dans le sprint, et en poursuite, et entre autres grâce à Bradley Wiggins, et puis sur la piste aussi à Cavendish. Et puis derrière tout ça, il y a le projet olympique qui vient se greffer, toute une émulation au niveau de la base, et puis ils trouvent l'argent. Or, vous ne pouvez pas faire une grande équipe aujourd'hui si vous n'avez pas les moyens financiers. Mais pour avoir les moyens financiers, il faut se donner les moyens aussi d'un projet. Alors aujourd'hui, c'est effectivement les Anglais qui nous dominent de la tête aux pieds. Enfin, peut-être pas tout à fait, mais ils ont été capables, ils ont les moyens aussi d'aller chercher les meilleurs coureurs du monde, voire de leur imposer de freiner s'il faut freiner, si ça doit être un autre qui doit gagner. Comment voulez-vous aujourd'hui? Oui, parce qu'on entend aussi de temps en temps, ah oui, mais il faudrait s'inspirer du modèle anglais. Moi je veux bien, mais à la base, si on veut s'inspirer du modèle anglais, il faudrait qu'on ait aussi les mêmes moyens financiers.
Oui, mais enfin, Cyril, c'est pas l'argent qui explique qu'aujourd'hui Wiggins est le plus fort du peloton, pas seulement l'argent quand même.
Non, mais pour avoir autant de coureurs, parce que pour dominer...
Il n'est pas le plus fort du peloton non plus.
La Dream Team, telle qu'on peut l'appeler aujourd'hui, chez les Anglais, elle est liée au fait que Garmin, c'est eux qui avaient Wiggins. Ils ont été lâchetés comme on achète dans le football. Ils ont récupéré les meilleurs coureurs de l'équipe HTC. Avec en tête qui? Cavendish. Quand d'un seul coup, t'as Wiggins, Cavendish, plus Froome, plus les autres, comment voulez-vous qu'on joue avec?
Ouais, mais Cyril,
la Française des Jeux, elle peut pas aller chercher Wiggins aujourd'hui, elle peut pas aller chercher Cavendish. Mm-hmm. Les budgets des équipes... Attends, si on prend les deux équipes Pro Tour, AG2R et Française des Jeux, c'est pas le budget.
C'est pas le budget.
Bon, alors, moi je veux bien, si on doit s'inspirer d'un principe des têtes d'équipe, alors à ce moment on fait une chose, Lorient est capable de battre le PSG.
Je pense plutôt qu'ils ont mis les moyens sur la formation. Ils ont mis les moyens pour la piste au départ. Ils ont mis les moyens maintenant sur la route. Pas simplement les moyens pour avoir une grosse équipe, mais sur la formation, sur la fédé.
Oui, mais il y a tout
et,
un.
Et ils se sont inspirés, bon, sur la piste aussi de ce que font les Français, parce que les Français sont pas ridicules sur la piste, hein, faut pas oublier.
Oui, mais ils avaient pris une belle rousse quand même à Pékin il y a 4 ans quand même. Oui, alors que c'est vrai. Bon, l'équipe de France était dominatrice pendant des années. Il y a 4 ans, ils sont tombés sur un os.
Et ils sont pas plus fous. Ils ont regardé ce que les Français faisaient et ils ont un peu amélioré. Mais le problème, je pense plutôt que c'est vraiment les moyens, mais les moyens sur le projet de réussite du cyclisme. C'est pas d'une équipe, c'est du cyclisme anglais.
Je
suis d'accord, parce que je trouve qu'en France, on perd cette notion de formation et de moyens pour y arriver.
Bourguis, s'il n'avait que 10 millions, on devait avoir plus de 20. ils n'auraient pas l'équipe qu'ils ont.
Non, mais on parle pas de la Sky.
Cavendish, Wiggins et Froome pourraient être dans des équipes différentes. Ils seraient quand même britanniques, Cyril. Et ils remporteraient quand même des
succès. Mais ils seraient peut-être pas un aidé au classement.
Non, mais ça, c'est peut-être dans l'autre sens.
Ouais.
C'est sur les personnes individuellement qu'on parlait.
Par rapport aux moyens financiers, ils se sont permis de pouvoir aussi entourer les coureurs, que ce soit au niveau des psychologues, de la diététique, diététicien. Il y a tout un contexte.
On a la même chose en France.
Mais t'as la même chose en France, mais le problème, c'est que eux, ils ont peut-être plus d'argent et donc plus de moyens de prendre les meilleurs, que ce soit au niveau des psychologues, au niveau des diététiciens. T'as tout un entourage qui fait tout un contexte qui fait que les coureurs sont obligés d'être complètement dedans, quoi. Ouais. Voilà, c'est vrai que l'argent, ça joue un rôle.
Sur le projet de formation, je trouve, on enlève les pros, mais sur la base, je trouve qu'ils ont mis beaucoup plus de moyens que ce qu'on peut avoir en France.
Et c'est là que nous on regarde que
le sommet de l'édifice. Mais chez les pros, si on n'a pas sur la formation de l'argent, parce qu'il en faut, en mettant des moyens autour de tout ça, ben on n'arrivera pas à avoir des bons. Ouais. On a des bons, mais on n'arrive pas à les porter jusqu'au bout.
Ouais. On n'arrive pas à les mettre ensemble.
Allez, on va, ça après c'est un autre. On aura l'occasion d'en reparler, messieurs. Monsieur Bourguignon, s'il vous plaît, un peu de voilà.
Il nous reste
5 minutes pour les
amours. Vous parlez toute la journée, c'est pour ça.
Mais c'est un débat intéressant. On l'aura, je pense, parce qu'ils sont pas prêts de s'arrêter, de remporter tout sur les routes du Tour de France, nos amis britanniques. Allez, à 19h50, il est grand temps de parier et de faire le récapitulatif de la journée. Ça n'a pas été fameux pour nous, hein, dans l'équipe dans la
team. D'autant plus que je vous entends, si, vous changez sans arrêt, les gars.
Allez, on accueille Benji.
PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker.
Bonjour monsieur Benji.
Salut messieurs.
Bonjour. On n'a pas été brillant, hein. Même avec une deuxième chance.
Sans rire, j'y avais pensé.
Moi, je peux te dire, vous avez de la chance. Vous avez tous de la chance parce que Rouen, il était parti.
Mais arrête, tous les soirs, tu vas nous faire ton sketch.
Il aurait été dans la bonne Rouen.
Il était en plus à cause de Pinot.
Ouais. On t'a donné une deuxième chance. C'était quoi ta deuxième chance?
Mais non, parce que bon. Jamais 230 pour Omcar.
Lucho, tu peux éclater là. Tous les soirs, tu nous fais ton sketch.
C'est-à-dire que Roy, il était
mais
devant,
tous les jours, tu te trompes.
Bah, non.
Bon, alors, messieurs.
Alors, demain. Récapitulatif. Demain, c'est la bande. Personne n'a gagné, comme ça, au moins, c'est sûr.
Voilà, exactement.
Il n'y a pas de changement au classement.
Je vous aurai.
Attention. Attention quand même à Cyril en termes de classement, puisque toi pour le maillot jaune, Christophe, tu es imbattable. En revanche, c'est très serré pour le maillot vert et le maillot à poids, parce que pour le maillot vert, c'est toujours Bourgui, mais avec seulement 10 points d'avance sur Cyril.
Je le laisse venir pour lui mettre un grand coup derrière.
concernant le maillot à poids, Cyril est à 5 points de toi, Christophe, donc attention.
Par contre, à poids, moi j'ai perdu mon leader, il est tombé aujourd'hui, donc je vais être obligé de changer.
Mais si on a une minute pour donner vos pronostics pour demain, les cotes, Benji.
Cavendish, le grand favori, 2,70. Greipel, dans un deuxième temps, 4,60. Et Goss à 5. Pour la cote, je vais jouer Sagan parce que c'est à 8.
Sagan pour moi aussi. Bourgui, Christophe, Sagan.
Il y a le Mont Saint-Clair à passer, ça peut le faire pour lui.
De toute façon, moi, il faut que je prenne des risques. Je ne peux pas m'en sortir autrement. Pour l'instant, je rappelle des points pour le classement, pour le maillot vert. Pour moi, c'est Sébastien Hinault.
Voilà. Sébastien Hinault.
Français.
D'accord, je joue français, c'est bien, tu as raison.
Je le connais, le bruit.
Alors la cote est à 100 pour Hino et pour Cyril, j'ai une stat, les deux dernières victoires de David Millar, l'étape suivante c'était un Français, c'était Richard Virenque et Jean-Patrick Nazon, donc c'est peut-être pas mal. Non,
ils sont plus là.
Ne le fais pas rêver.
Il a combien au niveau de la cote?
Là t'as une belle cote, mon pote.
Non, je vais rejouer comme aujourd'hui, je vais jouer roi.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Roi.
Avec un I ou un Y.
Un jour ça va bien finir par tomber.
Il me plaît ce gamin.
Et voilà. Bon, donc,
c'est 250.
250.
Ah ben alors là mon petit
père, si, maillot,
là,
si,
ça, si là, ça rentre jusqu'à Paris.
Si ça rentre, je vais en entendre parler pendant des années là. Donc j'espère que ça va pas rentrer pour toi.
Et passe dans une église,
va mettre des cierges.
Vous jouez toujours petit.
Très bien,
moi je joue Hino, je joue pas petit.
Ah non, c'est pas mal.
C'est vrai, c'est bien.
Lequel de Hino? Bernard
Hino? C'est sûr,
c'est Bernard Hino.
Je joue après-demain.
Après-demain, Bernard. Merci Benji, on se retrouve demain.
À demain matin dans les paris RMC avec nos trois compères.
Je sais pas moi, à quelle heure? 10h30 je crois.
Non, on commence pas, Luc.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, il est là, comme tous les soirs. Hein, il est fidèle au poste. Alors, s'il y en a un qui est fidèle au poste, c'est bien d'aider.
Et oui.
Nous voir tous les soirs à l'heure
où les autres se couchent.
Les chiens sont en train de ranger le petit camion à l'heure où Cyril et Lucho et Thierry s'arc-boutent sur leur position, nous balancent des arguments les plus terribles les uns que les autres. Et voilà, Dédé arrive pour nous réconcilier et pour nous parler de cette 13e étape qui va nous conduire chez les nudistes.
Oui, absolument, après 217 km de route.
Ah, enfin quelque chose d'intéressant.
Oui, c'est long encore hein, demain.
Ouais.
C'est long. Et
oui, mais à l'arrivée,
là.
Il y a la mer.
Oui, il y a la Grande Bleue, oui. Donc demain, 217 km de route et une ribambelle de giratoire, 54, c'est le record de ce tour. 31 ralentisseurs, 84 terre-pleins sans trop, 15 rétrécissements. Ouais. C'est une étape difficile, délicate, comme toutes ces étapes du sud.
Dans le sud, ouais.
Voilà, où on va retrouver tous ces obstacles qui servent à la route de tous les jours et qui nuisent éventuellement au passage fluide des coureurs.
Alors, Dédé, passage fluide pour les coureurs, mais pas pour les suiveurs. Ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route et donc on demande à tous les gens qui travaillent, notamment les ambulanciers, les médecins, de prendre leur disposition parce que demain ça risque d'être très chaud. C'est le 14 juillet, c'est un samedi, c'est un départ en vacances et il y a le Tour de France en plus, ça va être costaud. Hein.
Oui, donc ça va être bloqué. D'ailleurs, je précise à ceux qui prendraient la route pour descendre du côté de Montélimar, c'est 50 minutes de plus et du côté de Béziers, c'est une heure et demie de plus déjà là maintenant.
Déjà maintenant.
Déjà maintenant.
D'accord,
donc c'est
bien,
déjà bloqué. Ça
merci
va être,
de l'information.
Voilà, donc bonne route.
Hein. On va prendre nos vélos pour descendre
au
Cap d'Agde.
Hein.
Merci Dédé, on se retrouve demain, évidemment.
À demain.
Messieurs, alors prenez le petit truc, demain, attention au vent sur le final.
Ah. Oui.
Parce que de 7 à Agde, il risque d'avoir une bonne bordure.
Comme chez toi, de toute façon.
Hein. Oui.
À partir de Frontignan, exactement.
Il y a quelques-uns qui risquent d'être surpris.
Merci Thierry, merci Lucho, merci Cyril, à demain. Toute
bonne
la
soirée,
petite
messieurs.
Bande, donc 10h30 pour les paris. Et puis le direct, ce sera à partir de 14h. En attendant, elle est là, avec son petit vélo.
Oui,
avec son petit vélo et sa petite sonnette. Il n'y a plus de sonnette aujourd'hui. T'as perdu ta sonnette dans la route.
Bon, c'est pas grave, écoute. On a plein de choses à vous raconter, bien sûr. À l'intégral tour, c'est fini. Mais Before London, dans quelques instants.